Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler en direct. Vous composez le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Je vous interromps. Premier but du Japon, le Japon qui ouvre le score. Ah, c'est quelque chose dans ce huitième de finale, une passe en quart de finale pour affronter le Mexique et le Japon qui vient d'ouvrir le score à l'instant, retour des vestiaires. On va en parler dans quelques secondes. Exploit pour le moment des Japonais, on va en reparler. On va prendre évidemment nos intervenants ce soir. On va d'abord saluer Jules Valentango et à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer Élisée Mpatina Boïkon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Voilà, je le disais, hein, cette ouverture du score, on suit bien évidemment les huitièmes de finale ce soir sur évidemment VOA Afrique. Le Brésil, un peu plus tôt dans la journée, a battu 2-0 le Mexique pour se qualifier en quart de finale. Début de Neymar et Firmino qui ont permis à la Seleção de se qualifier sans embûche malgré 20 premières minutes difficiles. On va prendre la direction du Gabon, retrouver Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, le Brésil a fait le métier, a fait le dos rond, un début de match un peu difficile à l'avantage des Mexicains et petit à petit, le Brésil qui a refait surface pour s'imposer logiquement sur ce match. Hein.
Oui, c'était prévisible. Le scénario du match a été parfaitement respecté par les Brésiliens d'abord voulu sortir de leur dispositif défensif et finalement, ils ont un peu pousser les Mexicains à la faute, c'est-à-dire à la fatigue. Et donc, pendant leur temps faible, ils ont été pris à la gorge. Finalement, ils ont cédé en deuxième mi-temps, surtout lorsque le Brésil a bien repositionné. Et Williams, qui était esselé sur le flanc droit, il est revenu et c'est un formidable remonteur de ballon. Il a permis donc de saborder la défense mexicaine.
Merci beaucoup. On va retourner retrouver bien évidemment Élisée Mpatina. Élisée, pour le moment, grosse surprise, les Japonais qui viennent d'ouvrir le score. Ce serait un gros cataclysme hein, si la Belgique, qui a dominé outrageusement la première mi-temps, se faisait éliminer. Hein.
Oui, bien évidemment, hein, parce que on les mettait déjà parmi les favoris. C'était des grands outsiders en tout temps, mais actuellement, la Belgique fait partie des grands favoris de cette Coupe du Monde aujourd'hui. Nous sommes en train d'assister à un match où les données sont en train d'être changées, notamment les Japonais qui se sont bien battus en première partie, malgré la domination des Belges qui n'ont pas beaucoup inquiété cette défense japonaise. Bien en place avec beaucoup de combativité, surtout au milieu de terrain. Et les Japonais sont en train de déjouer les pronostics, puisque là, ils sont en train de mener le score ouverture. Logique, hein, au vu de ce qu'on a vu en première partie, c'est que les Japonais ont joué en équipe et ils se sont aussi procurés de très belles occasions, hein, même si côté belge, on a vu aussi hasard sur la première frappe de la rencontre, le parcours qui aurait pu marquer. Le premier but de cette rencontre, mais les Japonais aussi ont joué avec les chances et ça a marché aujourd'hui. Et ce qui se passe actuellement, ce serait catastrophique si les Belges, une fois encore, se sont éliminés en week-end de finale, comme ce fut le cas il y a 4 ans au Brésil.
Et à l'instant, hein, Eden Hazard hein, qui a tiré sur le poteau gauche des buts japonais. Mais pour le moment, ça ne rentre pas pour la Belgique qui, pour le moment, serait éliminée. Moi, j'ai toujours eu des difficultés avec la Belgique. Hein. C'est vrai que souvent, ils sont annoncés favoris dans les compétitions et souvent, ils s'écroulent. Ils n'arrivent pas vraiment à aller au bout et en tout cas, accéder au dernier carré. En tout cas, ça confirmerait ma prédiction si malheureusement ce score se confirmait pour les Belges. En tout cas, il va suivre ça. Il reste 40 minutes de jeu en Russie. La Belgique, pour le moment, je le disais, qui est dominée 1-0 par les Japonais. Allez, on va parler à présent, bien évidemment, de l'absence de pays africains pour ces huitièmes de finale. Ça ne s'était pas vu depuis 1982, si je ne m'abuse. Le deuxième but des Japonais. Incroyable, incroyable, en direct sur VOA Afrique. Le deuxième but des Japonais. Oh là là, ça sent pas bon du tout pour la Belgique. On va reprendre cette émission en cours, mais je le disais, le Japon qui mène maintenant 2-0. Jules Valentin, pour le moment, les Diables Rouges sont écartés de cette compétition. Incroyable, incroyable équipe du Japon. C'est rafraîchissant aussi hein, d'avoir une équipe un peu différente de ces grosses équipes européennes souvent. Incroyable, mais deuxième but pour le moment. Les Nippons qui sont qualifiés. Difficile pour la Belgique, hein, Jules Valentin.
C'est difficile pour la Belgique qui a accepté de subir le style de jeu des Japonais qui jouent sur des très courtes passes. Ils ne sont pas grands de taille, donc ils ont ramené la balle au sol et finalement la puissance des Belges, habituelle des Belges, est devenue relativement émoussée. Et ensuite, on sait que ces grosses équipes européennes ou sud-américaines sont constituées de joueurs qui sont éparpillés dans tous les championnats européens. Finalement, c'est leur club qui en profite, mais l'équipe nationale a moins d'homogénéité. Donc, avoir des grands noms, c'est pas automatiquement avoir une très grande équipe.
Merci beaucoup, Jules Valentin. Je rappelle, hein, c'était surprenant, mais pour le moment, 2-0. Hein, c'est Inui qui a inscrit le deuxième but. On fait signe qu'on a un premier auditeur qui nous appelle. Bonsoir. Kossana, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas Pino.
Comment allez-vous?
Vous-même.
Ben écoutez, on fait aller, merci beaucoup. Alors, on le disait, absence d'équipe africaine sur la seconde partie du tournoi. On a beaucoup parlé d'arbitrage. Est-ce que selon vous, les erreurs d'arbitrage expliquent en grande partie l'absence de l'Afrique en seconde partie de compétition?
Oui, justement. Et moi, je reviens surtout sur le match du Nigeria et du Sénégal. Ah, ces deux équipes qui sont vraiment compétitives, ils étaient victimes de surtout l'arbitrage qui a fait que le Nigeria et le Sénégal n'ont pas assez huitième de finale. Donc, c'est l'injustice, quoi. Surtout, moi, c'est que les pénalties non sifflées et puis bon, des trucs comme ça fait que le Nigeria et le Sénégal n'ont pas pu arriver au huitième de finale. Donc, moi, l'arbitrage vidéo, surtout, c'est une corruption qui ne fait pas seulement. Donc, la FIFA doit essayer de voir cette façon, sinon ça ne marche pas. Et cela nécessite aussi des réponses au niveau de nos dirigeants qui manifestent, sinon c'est vraiment inadmissible de l'injustice comme ça se passe au niveau de cette compétition, grande compétition internationale mondiale. Donc moi je pense que ce n'est pas bien. On a des talents. Quand on essaie de voir les équipes, l'équipe nationale du Sénégal, il y a des grands joueurs qui sont là. Sadio Mané avec des jeunes gens qui ont du talent. Ils méritent d'arriver au huitième de finale. Donc, moi, je pense que malgré les trois autres équipes, je vois qu'il y a un travail qui reste à faire, surtout au niveau de nos dirigeants qui doivent vraiment investir dans le football. Afin qu'on espère un jour ramener la Coupe du Monde quand même en Afrique. Sinon, avec ce qu'on voit, c'est vraiment décevant qu'aucune équipe africaine vient au huitième de finale. C'est vraiment désolant, mais on espère que les années à venir, il y aura des investissements, il y aura des changements et qu'un jour l'Afrique va aller même jusqu'au final et pourquoi pas remporter le mondial.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis le Tchad. On va retourner vers Élisée Oumpatine. Élisée, on le disait, est-ce qu'il n'y a pas aussi, malheureusement, cette incapacité, notamment pour le Nigeria et pour le Sénégal, de tenir un résultat? On se souvient du but, finalement, de Rojo pour les Argentins dans les ultimes minutes face au Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sur ces matchs-là, une difficulté à tenir le résultat?
Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on a vu presque toutes les équipes africaines ont encaissé des buts durant les arrêts de jeu, pratiquement en toute fin de rencontre, et ça s'est révélé en défaveur du Nigeria encore face à l'Argentine. Hein. Les Nigériens pouvaient bien sûr garder ce score-là de l'un du passé, puisqu'ils ont épuisé au fond de leur physique, pour pouvoir égaliser, puisque ce n'est pas évident. Face à cette grande équipe, c'est vrai que bon, l'Argentine connaît déjà son apogée par rapport à certains joueurs qui sont vieillissants. Mais il faut dire que face à cette grande équipe d'Argentine, les Nigériens ont pu égaliser et il suffisait simplement de jouer le reste de la partie, d'être concentré à 100% pour pouvoir enrichir le résultat nul. Maintenant, comme le Sénégal, le Nigeria aussi, il n'a pas fait preuve de concentration totale afin de garder ce score nul pour cette équipe peut lui permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale. On a vu
satisfaction immédiate de la part de Rojo, le joueur de Manchester United. Il n'a presque pas joué durant cette saison. C'est d'ailleurs ce qui a fait du tout à cette équipe d'Argentine, avec des joueurs qui n'ont pas été souvent titulaires dans le club, hein, la majorité, à part le Di Maria, lui-même, Messi. Donc les Nigériens n'ont pas pu garder ce score-là, pour toute de concentration. Et ils n'étaient pas à 100%, mais Nicolas peut aussi reconnaître que c'est un match très disputé, et la condition physique était difficile, et ça a fait que les Nigériens n'ont pas pu garder ce score et ont encaissé en toute fin de match.
Allez, merci beaucoup Élisée. On fait signe que nous sommes en ligne avec Thierry Komoundi, notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors Thierry, évidemment, hein, on pleure encore du côté de Kinshasa cette élimination par les Tunisiens. Les Aigles de Carthage qui sont aussi rentrés à la maison. Comment vous analysez-vous cette contre-performance africaine? Est-ce que c'est seulement des erreurs d'arbitrage?
Non Nicolas, je pense que c'est trop facile de tout ramener aux erreurs d'arbitrage. Hein. Après avoir vu les matchs du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal ou encore... bref, les rencontres de toutes les équipes africaines, je pense que il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de compte, notamment la gestion des rencontres. On a parlé notamment du Sénégal, hein, qui est sorti la mort dans l'âme avec sur base de ce principe de fair play, avec plus de cartons pris contrairement au Japon. Mais je pense que le Sénégal pour moi, a véritablement raté son élimination lors de sa rencontre face au Japon. Ce deuxième but, les Sénégalais ne devaient pas le prendre. Il y a une rigueur tactique, une rigueur dans la gestion des rencontres qui a manqué cruellement aux équipes africaines. Vous allez remarquer que lors de la première journée, par exemple, et l'Égypte, et le Maroc, et la Tunisie ont pris des buts dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Ça veut tout dire. Hein, c'est des éléments comme ça qui entrent en ligne de compte. C'est le haut niveau, les petits détails comptent. Je pense qu'il y a eu, c'est vrai, sur le match Maroc-Espagne par exemple, il y a eu des erreurs d'arbitrage, on l'a tous décrié, mais il ne faut pas tout ramener à l'arbitrage. L'Afrique a manqué également de la qualité, a manqué par moment d'inspiration, a manqué par moment quelques éléments qui pouvaient l'amener un peu plus loin dans la compétition. L'Afrique a manqué de concentration parlant de certaines sélections, notamment du Sénégal. Donc voilà, hein, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que nous puissions nous remettre en cause au niveau du continent, que ces différentes sélections puissent se servir de ces leçons-là pour aller de l'avant. Voyez ce que le Japon est en train de faire face à la Belgique, par exemple. Ça veut tout dire, hein, du niveau de cette Coupe du Monde. Vous avez longtemps parlé des équipes qui ont été éliminées, des gros qui sont sortis depuis le début de ces huitièmes de finale et même au premier tour. Donc c'est beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte en dehors de l'arbitrage.
Merci beaucoup Thierry Komoundi. Allez, on va prendre un autre appel. Mephis Kiti qui nous appelle depuis le Bénin. Bonsoir.
Bonsoir Andréa, bonsoir à tous.
Alors vous vouliez surtout parler de la Croatie, hein, la Croatie qui a fait un brillant parcours au premier tour en éliminant notamment le Nigeria et qui a eu beaucoup de difficultés face au Danemark. Vous en faites toujours l'un des favoris de ce tournoi, pourquoi?
Oui, quand vous voyez cette équipe de la Croatie, c'est vrai que hier cette équipe a souffert face au Danois, mais ça regorge des joueurs étincelants à la personne de Rakitic, de Modric, qui à tout moment peut faire basculer une rencontre. Donc, ils ont une défense d'enfer. Cette défense ne fait pas comme la défense de l'Argentine. Et également, au niveau du milieu de terrain, comme je l'ai dit tantôt, il y a des hommes capables de faire la différence à tout moment. En attaque, il y a Mandzukic qui, quand il est en forme, quand il trouve des occasions, il le met au fond. Donc, je me dis que cette équipe de la Croatie a de véritables chances d'aller loin dans cette compétition. Donc, par rapport au Brésil et la France, font traite des titres favorites pour le titre précédent. Je pense que, le titre suivant, pardon, je pense que cette équipe croate, je mise évidemment sur cette équipe peut faire l'affaire et pourquoi pas remporter cette compétition.
Merci beaucoup hein, de nous avoir appelé depuis le Bénin. On va se tourner à nouveau vers Jules Valentin. Oui, Jules Valentin, le coup de tonnerre hier, et c'est encore une surprise, hein, évidemment. Lukaku qui rate, un but tout fait de la tête, mais Lukaku qui ne trouve pas le cadre, parlons. Jules Valentin, je le disais. l'Espagne écartée, l'Espagne champion du monde 2010, qui a eu des soucis de sélectionneur, bien évidemment, qui a été remplacé, Lopetegui, quelques jours seulement avant le début de la compétition. Comment vous expliquez cette sortie de route de la sélection espagnole?
Oui, mais c'est une sélection en fin de parcours, c'est la dernière ligne droite. Une génération qui est venue et qui a gagné la Coupe d'Europe.
Voilà, alors attendez, malheureusement, on va essayer de rétablir la connexion avec le Gabon, Jules Valentin. On va se tourner vers Élisée Moupati. Élisée, je le disais, hein, sortie de route pour les Espagnols. Comment vous expliquez finalement la fin de parcours? Et on le rappelle, Andrés Iniesta qui met un terme à sa carrière internationale.
Oui, c'était très attendu, hein, Nicolas, et c'était très attendu de la part de Andrés Iniesta, même si l'Espagne arrivait à remporter le mondial, Iniesta devrait normalement rendre le tablier, devrait arrêter sa retraite internationale. Mais la contre-performance de cette équipe espagnole se situe d'abord, premièrement, au licenciement de l'entraîneur, l'actuel entraîneur du Real Madrid, le PSG, qui avait fait toute la préparation avec la sélection espagnole. Il était là depuis près de 2 ans, il connaît, c'est puisque c'est lui qui a sélectionné le 23 qui était présent. Et il a déjà imposé un style de jeu à cette formation. Évidemment, à quelques jours de ce mondial, on l'a viré parce qu'il a signé au Real Madrid. C'est un mauvais coup de la part du président de la Fédération espagnole de football qui devrait être sous démissionné très bientôt. Et donc, voilà la première. Le premier facteur du revers de cette équipe. Et ça, maintenant, secondo, le football, tout ça, hein, très connu de tout, hein, qui, c'est vrai qu'il ne continue pas à impressionner, mais qui n'a plus d'été sur le football, le jeu direct. Au début, on est en train de voir, durant cette coupe, donc que les équipes qui jouent le football direct sont en train de prendre le dessus. Il y a eu le Brésil, si j'ai compris, ça me rappelle même cette génération de 1994, cette équipe de Brésil qui a remporté la Coupe du Monde qui était jouée du côté des États-Unis. Et un football, un jeu direct, très compact, hein, surtout en défense et milieu terrain. On a vu cette équipe brésilienne de venir par 6 points. La France également qui a un jeu qui est parti sur un football direct, pas trop, du technicien avec des coups de passe pour ralentir les jeux. Donc on remarque que c'est seulement cette équipe qui a pris le jeu direct. Qui sont en train de s'imposer, le Japon à l'image, même le Japon, vous voyez, le Japon très organisé, avec, sur 4 premières occasions, j'avais dit, les Japonais ont ouvert le score, donc aujourd'hui, les Belges doivent s'inspirer hein, du football que le Japon est en train de pratiquer, le football à protection, et on est tenté de dire que c'est révolu. C'est vrai que ça a dominé en tout temps le football mondial, mais aujourd'hui, ça ne marche plus, les Espagnols doivent revoir leur manière de jouer. Qui viennent encore régner sur le football mondial.
Merci beaucoup, Élisée. Allez, on va prendre un nouvel auditeur, Brahima Doumbia, qui nous appelle depuis le Mali. Bonsoir, Brahima.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Alors, évidemment, hein, on se projette un petit peu hein, sur cette compétition. Qu'est-ce que vous attendez du quart de finale France-Uruguay, vous?
Surtout, j'aimerais insister sur l'élimination de l'Espagne qui, pour moi, n'est pas une surprise comme on le sait tous. Cette équipe espagnole a toujours du mal à battre une équipe du mondial ou d'une grande compétition en quelque sorte. La Russie a fait bloc face à cette équipe espagnole. C'est vrai, la Russie n'a pas joué. La Russie a passé pratiquement. Les Russes ont passé tout leur temps à défendre. Et cela a porté fruit. Et surtout, je voudrais dire chapeau à ce gardien russe qui, quand même, a su arrêter ce tir, quand même, de mon point de vue. Est un héros de mon point de vue. Et vu son âge, je pense qu'à la fin de ce mondial, il va quand même abandonner.
Voilà, liaison un peu difficile avec le Mali. Merci beaucoup, Brahima Doumbia, de nous avoir appelé. On va retrouver Jules Valentin, Thierry Kamoundji, Top Congo FM. Thierry, on se projette évidemment, la France brillamment qualifiée face à l'Argentine contre l'Uruguay qui a fait tomber les derniers espoirs de Cristiano Ronaldo. Comment vous abordez ce match?
Voilà, ce sera un match très très disputé, hein, surtout que la France est en pleine
confiance avec ce match qu'il a sorti contre l'Argentine. Mais j'ai plutôt mal pour l'Uruguay, hein, qui a été sauvé par un Edinson Cavani de grand jour. Mais malheureusement, Cavani est encore incertain sur ce match, même si la fédération uruguayenne a posté un message, un communiqué plutôt rassurant quant à la participation probable de l'un de ses attaquants vedettes lors de cette rencontre. Mais ça risque d'être très très compliqué. On a vu la sortie de Cavani sur blessure. Comment elle a pénalisé l'équipe la Céleste uruguayenne lors de cette rencontre des huitièmes de finale, mais ça sera un match ouvert, un match très 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 disputé. La France qui a une attaque en feu avec des jeunes qui montent, avec Mbappé qui a été extraordinaire contre l'Argentine, fera face à une équipe argentine qui n'a pas pris beaucoup de buts. Son unique but, c'était lors de cette rencontre contre le Portugal en huitième de finale. Donc c'est un match ouvert, c'est un match qui m'aura l'air très très tactique. Il faudra beaucoup beaucoup travailler, surtout au niveau de l'attaque en feu de l'équipe de France. Et l'Uruguay, de son côté, va espérer bien évidemment le retour d'Edinson Cavani.
Merci beaucoup. Allez, on va retourner au Gabon où on est reconnecté avec Jules Valentin. Et Jules Valentin, on lisait ce quart de finale. Qu'est-ce que vous en attendez, vous?
Oui, c'est un match particulièrement difficile pour la France parce qu'elle va affronter une équipe habituée à fermer le jeu et qui sait le faire. Et donc, dans ce cas de figure, l'équipe française, qui elle aussi est assez attentive et compte sur sa solide défense, sera obligée de faire le jeu. C'est elle qui est en position maintenant de produire le jeu. Et dans cette situation, on a pu le voir dans les matchs du premier tour, que les automatismes ne sont pas toujours très rodés quand les joueurs jouent arrêtés. Bon, par contre l'Argentine, c'était des contre-attaques et donc des jaillissements rapides que permettait le jeu très latéral de l'Argentine. Donc, c'est un match difficile pour la France, mais heureusement, s'il faut le dire pour elle, nous trouvons dans un cas de figure où vraisemblablement le buteur clé de l'équipe d'Uruguay, qui est Cavani, ne sera pas présent.
Allez, je vous interroge, Jules Valentin. Les Belges qui réduisent le score à la 69e minute, un cafouillage dans la défense japonaise. Le gardien s'est un peu troué avec ce but de la tête belge. Finalement, le gardien, on a l'impression qu'il pense que le ballon va sortir et finalement, poteau opposé, le ballon qui rentre évidemment dans son but. 2-1 pour les Belges qui retrouvent un petit peu d'espoir. On va prendre un nouvel auditeur, Tidiane Botegué, qui nous appelle depuis Douala. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match Belgique-Japon? Pour le moment, ce sont les Japonais qui sont qualifiés.
En tout cas, cela démontre vraiment que cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde vraiment qui nous réserve beaucoup de surprises, parce que vraiment, je n'attendais pas de tout vraiment à ce renversement de situation, hein, parce que vu déjà de ce match que la Belgique avait joué, surtout avec les attaquants comme Lukaku, Eden Hazard et un gardien comme Courtois. En tout cas, je n'attendais pas du tout que la Belgique soit menée par vraiment l'équipe japonaise, parce que nous avons vu l'équipe japonaise a eu quand même beaucoup de difficultés, par exemple contre le Sénégal. Elle a été battue aussi par
l'Islande, si j'ai pas de mémoire. Ouais. Merci, Tidiane. Merci de nous avoir appelé depuis Douala au Cameroun. Vous l'entendez, la musique de fin, je le rappelle pour le moment. 2-1 pour le Japon. Encore 20 minutes à jouer. On va saluer Thierry Kamboudi, Top Congo FM à Kinshasa. Bonsoir, Thierry. On va saluer également Jules Valentin Goué à Libreville. C'est au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et enfin, on salue Élisée Mpatina Boïko, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, et à lundi prochain.
La mise en onde est assurée par Michel Joseph et Joselle Morissin. Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.